et voici les chroniques biodynamiques pour cultiver sa vie au jardin. Gauthier, il semblerait que les plantes soient beaucoup plus sophistiquées que ce que l'on croyait jusqu'à présent, et la recherche nous montre qu'en fait il y a de la communication dans le monde végétal, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Il y a une énorme communication dans le monde végétal et même entre les plantes et d'autres règnes comme les insectes et les champignons en particulier. C'est vrai qu'on a vraiment tendance souvent à s'imaginer la plante comme une chose, à peine une chose vivante, simplement capable de puiser quelques éléments minéraux dans le sol avec ses racines et de se construire grâce au carbone de l'air via la photosynthèse. Mais en fait, plus on cherche à comprendre les plantes, plus on découvre que ce sont vraiment des êtres doués d'une certaine sensibilité et qu'elles vivent au sein de ce qu'on peut carrément appeler des communautés et qu'elles sont en lien avec beaucoup d'autres êtres vivants.
Comment font-elles pour communiquer, par exemple ?
Alors, je peux par exemple donner l'exemple de la balsamine ou de l'impatiente. Des chercheurs ont montré que cette plante, en fait, est capable de reconnaître si les plantes qui poussent autour d'elle sont des proches parentes ou si ce sont des étrangères, entre guillemets. C'est-à-dire que grâce à des substances de signalisation qui sont émises par les racines de cette plante, elle est capable de reconnaître si les plantes qui poussent à côté sont issues de la même plante mère. Et dans ce cas-là, elle aura tendance à pas faire trop de racines pour mieux partager l'espace du sol. Au contraire, si elle s'aperçoit que les plantes qui l'entourent sont pas de sa famille, entre guillemets, elle va développer beaucoup plus intensément son réseau racinaire pour s'approprier un maximum de ressources. Donc ça, c'est vraiment surprenant. Et le même genre d'expérience avec d'autres plantes, l'arabette, a montré que cette plante, elle est même capable... Enfin, elle a même une sorte de conscience d'elle-même, une sorte de conscience de sa propre individualité, parce qu'elle réagissait de la même façon, même si la plante qui pousse à côté d'elle est un clone et tout à fait identique génétiquement, elle décelait quand même que c'était pas elle-même, et du coup, elle développait son réseau racinaire de façon beaucoup plus dense que si elle avait poussé toute seule dans son pot d'expérimentation. Mais il y a aussi des relations qui sont vraiment très très fines avec les insectes, par exemple le haricot de Lima. Non seulement il est capable de sentir quand il est attaqué par un ravageur, mais il est même capable de reconnaître le ravageur qui l'attaque et de sécréter ensuite des substances qui appellent un autre insecte qui va se nourrir de l'insecte ravageur en question. Par exemple, s'il est attaqué par des chenilles, il va faire des phéromones qui vont attirer des guêpes qui pondent leurs œufs dans ces chenilles. S'il est attaqué par des acariens, il va sécréter des phéromones qui attirent d'autres acariens ravageurs de l'acarien qui l'attaque. Donc c'est vraiment très très fin comme connaissance de son environnement. Mais je voudrais dire que le plus intéressant pour l'agriculture et pour le jardinier, c'est vraiment en fait les relations qui existent entre les plantes et les mycéliums de champignons dans le sol. Hein. Puisque en fait, ces filaments fongiques, ils sont beaucoup plus, disons, performants que les racines des plantes supérieures pour fouiller le sol. Un seul centimètre cube de terre, c'est-à-dire un petit dé à coudre, peut contenir jusqu'à 100 mètres de ces filaments fongiques, de ces mycéliums de champignons. Et donc, ces champignons sont vraiment capables de capter les éléments minéraux à une échelle bien supérieure à celle des racines des plantes dites supérieures aussi. Mais par contre, les champignons ne sont pas capables de photosynthèse, donc ils ne font pas d'hydrate de carbone, ils ne font pas de sucre. Et ils entretiennent une sorte de symbiose avec les plantes chlorophylliennes en leur proposant d'échanger des sucres contre des éléments minéraux du sol, de la potasse, de l'azote, etc. Mais au-delà de cette simple symbiose, par ce fait, en fait, dans un milieu naturel comme la forêt, les filaments des champignons relient toutes les plantes entre elles. À tel point que les chercheurs qui étudient ce genre de phénomène, ils parlent du World Wide Wood, donc en fait une sorte de réseau internet forestier qui relie toutes les plantes entre elles. Et grâce à ce réseau, les plantes échangent des informations et aussi des substances. Par exemple, un arbre qui aura germé un peu à l'ombre, qui aura pas beaucoup accès au soleil, à faire de la photosynthèse, et ben un autre arbre un peu plus loin qui sera mieux ensoleillé pourra, via ces filaments de champignons, lui envoyer des sucres pour assurer sa croissance. Il y a des tas d'exemples comme ça, et dans les champs cultivés aussi, on voit qu'il y a des interactions entre les plantes par ces mycéliums qui sont vraiment d'une très grande importance pour la croissance des plantes. Mais bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut cultiver une certaine diversité de plantes, et puis bien sûr respecter le sol, ne pas travailler le sol trop souvent, trop profondément, pour que ces champignons soient vivants. Et ce qui est très intéressant, pour finir, pour le biodynamisme, c'est que ces connaissances issues de la recherche tout à fait récente, tout à fait moderne, sont souvent une autre approche, un autre point de vue, mais qui confirme ce que Rudolf Steiner avait indiqué dans son cours aux agriculteurs, dans lequel il nous avait déjà bien expliqué, il y a presque 100 ans, que le cerveau des plantes, si on veut, ce sont leurs racines, et que c'est via les racines que les plantes sont en contact avec leur environnement. C'est écrit noir sur blanc dans ce cours aux agriculteurs. Et ce qui nous explique aussi, c'est que lorsque le sol est bien entretenu, qu'on y apporte les préparations biodynamiques, entre autres, qu'il propose, la plante devient capable de se nourrir des éléments qu'elle pourra trouver dans le champ voisin, voire dans la forêt plus loin. Donc il avait déjà cette conscience que la plante n'est pas du tout limitée à sa sphère racinaire, mais qu'elle est en communication avec un environnement beaucoup plus vaste.
Pour développer la biodynamie et cultiver la vie, rendez-vous sur le site bio-dynamie.org.